Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Donald Trump, il ne faut jamais l'oublier, doit sa notoriété auprès d'une bonne partie de ses concitoyens aux émissions de télé-réalité qu'il a animées pendant des années. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, le show continue, provoquant à chaque fois exclamations, stupéfaction, indignation et applaudissements, en tout cas chez ses admirateurs. Le tout dernier épisode, démarré cette semaine en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors qu'on s'inquiète du climat, de l'Iran et des risques de guerre, le tout dernier épisode laisse pantois. Voilà le président des États-Unis menacé de destitution pour avoir demandé à son homologue ukrainien de l'aider à salir Joe Biden, l'un de ses rivaux démocrates, pour la prochaine présidentielle. Voilà la présidente de la Chambre des représentants qui, depuis 3 ans, y voyait un piège, contrainte d'enclencher une procédure législative qui va durer des mois. Voilà la Maison-Blanche qui publie un résumé de la conversation suspecte comme pour accélérer une affaire qui pourrait la servir. Voilà la campagne présidentielle infléchie, la vie politique américaine plus polarisée que jamais, et pourtant, Donald Trump ne court pratiquement aucun risque d'être destitué. Pourquoi ? Quelles sont donc les particularités du système et les rapports de force politique au Congrès ? Jusqu'à quel point le Parti républicain va-t-il faire bloc derrière ce président tellement contraire à ses valeurs traditionnelles ? Comment le camp démocrate réagit-il face aux accusations dont Biden va devoir se défendre ? La course à l'investiture démocrate en sera-t-elle modifiée ? Pourquoi l'Ukraine, avec ses oligarques et sa corruption endémique, joue-t-elle depuis quelques années un tel rôle dans la politique américaine? Enfin, quels seront les prochains épisodes? C'est ce que nous allons découvrir grâce à vous. Laurence Nardon, bonjour. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Laurie Kenton, maître de conférences à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Alexandra Goujon, bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Bourgogne et à l'Institut des études politiques de Dijon. Au téléphone, et je l'en remercie, Benjamin Haddad, vous êtes chercheur en relations internationales, directeur Europe d'un think tank qui s'appelle Atlantic Council à Washington. Benjamin, je commence avec vous. On a l'impression que tous les jours, depuis mardi dernier, depuis que Donald Trump, la mine renfrognée, a fait son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les jours, il y a des révélations. Quel est donc le climat dans la capitale fédérale ?
Alors, le climat, c'est un climat en fait assez comparable à celui qu'on vit depuis plus de 3 ans, depuis que Donald Trump a déclaré sa candidature, depuis qu'il est président. C'est un climat obsessionnel, quasiment hystérique à Washington, focalisé sur la personnalité de Donald Trump et les scandales. Il faut se rappeler que Washington était une ville qui a voté pour Hillary Clinton à 93%, qui n'a jamais très bien accepté la victoire de Donald Trump, qui a fait explicitement campagne d'ailleurs contre cette ville, et qui voit cet outsider débarquer avec effectivement un parcours assez ambigu, avec des liens troubles. On est passé d'ailleurs, c'est assez ironique, pendant 2 ans, on a parlé de la question de l'ingérence russe dans la campagne de 2016, de la collusion éventuelle avec la Russie, avec le rapport Mueller. Donc on est passé là d'une séquence russe à une séquence ukrainienne, mais il ne faut pas oublier que depuis 2 ans, de très nombreux scandales se sont succédés, des démissions de ministres, des histoires avec des actrices porno. Enfin voilà, vous avez parlé de télé-réalité, cette présidence de Donald Trump, c'est une présidence qui se renouvelle en permanence dans ses scandales, dans son show, et qui continue de cliver les Américains autour de ce président.
Mais le processus enclenché depuis mardi, c'est quand même un tournant dans cette présidence, et c'est un tournant aussi dans la dynamique politique.
Alors, c'est vrai que c'est un tournant, puisque jusqu'ici, les démocrates, dirigés par Nancy Pelosi à la Chambre des représentants, s'étaient refusés à lancer cette procédure d'impeachment. Une partie de la gauche démocrate voulait et mettait sous pression Nancy Pelosi, qui résistait parce qu'elle voyait un piège. qui allait radicaliser les démocrates et surtout qui allait les pousser à faire de la campagne 2020 un référendum sur Donald Trump, ce qui est vu pour beaucoup comme un risque. C'est ce qu'avait fait d'une certaine façon Hillary Clinton en 2016. Or aujourd'hui, si vous regardez les débats démocrates, les candidats essaient de se focaliser sur les propositions, sur l'économie, sur l'assurance maladie universelle. Donc Nancy Pelosi avait résisté, mais là effectivement, je crois que entre les révélations accablantes du dossier ukrainien, en particulier ce qu'on voit dans le dossier qui a été révélé ces derniers jours, mais en plus la radicalisation du clivage qui est lié au calendrier électoral, c'est très compliqué aujourd'hui pour Nancy Pelosi de résister à cette tentation, même si on sait encore une fois que c'est essentiellement une procédure politique, comme vous l'avez dit, puisque le Sénat est dirigé aujourd'hui à une large majorité par les Républicains. Or, pour que le président Trump soit destitué, il faut que la Chambre des représentants, puis le Sénat à une majorité des deux tiers, se prononce en ce sens. Or, Donald Trump aujourd'hui est certes très clivant, mais il est soutenu par 90% de la base du Parti républicain. Donc on ne voit pas du tout les sénateurs républicains aujourd'hui se prononcer pour une destitution d'un président qui est si populaire auprès de leurs propres électeurs.
Laurie Kenton, la manière dont ce feuilleton s'est accéléré en 4 jours pratiquement, tout cela est venu d'un lanceur d'alerte, comme on dit, qui est désormais protégé par une loi votée par le Congrès américain. Un lanceur d'alerte dont on suppose qu'il s'agit d'un officier de la CIA qui aurait été employé par la Maison Blanche, et c'est lui qui aurait alerté sur le contenu de cette fameuse conversation, cette conversation téléphonique désormais fameuse, du mois de juillet dernier, entre le président américain et le président ukrainien qui avait été élu, Zelensky, en avril.
Exact. La conversation a lieu, la fameuse conversation téléphonique a lieu fin juillet. Il lance son alerte à la mi-août. Donc il y a un certain nombre d'événements qui font que il y a du temps qui se passe entre les deux, entre le moment où il est au courant et le moment où il décide de pas rendre public, mais au moins faire remonter l'information. Et l'information finalement est rendue publique. C'est il y a quelques jours.
Donc, via ses supérieurs, il reste dans la filière hiérarchique.
Oui, parce que tout ça est très encadré. Hein. Tout ça est très encadré par des lois et par une chaîne hiérarchique. Il a pas balancé ça au New York Times comme à l'époque du Watergate où on balançait des choses un petit peu deep throat, balançait des documents comme ça. Donc il y a une chaîne hiérarchie qui est respectée, et c'est dans ce processus-là que on se situe, on est en bout de cette chaîne, et donc là on voit la production d'un certain nombre de documents
la déposition spectaculaire du directeur du renseignement. Donc ça c'était jeudi dernier, voilà. Ça a été retransmis par les télévisions américaines, qui est un vice-amiral et qui dit en gros, moi je suis resté dans les clous, je fais mon devoir, j'ai rapporté cette affaire au comité de la Chambre des représentants qui en est responsable, mais je ne saurais en dire plus sous peine de compromettre mes relations avec le président. C'est spectaculaire, encore une fois.
Il y a toujours la notion de devoir, mais il y a aussi la notion de loyauté qui entoure Trump. Trump est très sensible à cette idée de loyauté. On voit comment il parle des traîtres, des espions, etc. Donc là, il y a vraiment cette question de la conscience et de la carrière. Et donc, une partie de ce qui va façonner le débat dans les semaines à venir va être, notamment chez les Républicains, cette question de la conscience versus la carrière. C'est aussi ce qui a été le cas chez les démocrates. Un certain nombre de démocrates, ça a été dit, étaient contre, alors pas seulement Nancy Pelosi, mais une partie des démocrates notamment qui ont été élus dans des circonscriptions qui avaient voté Trump à la présidentielle, mais qui avaient voté pour un démocrate à l'élection législative. Donc ces démocrates sont sur un siège éjectable. Et donc, on peut comprendre leur prudence. Et c'est suite à une prise de position collective d'un certain nombre de ces représentants que l'équilibre a basculé au sein des représentants démocrates. Et donc, le calcul pour eux, c'est un calcul qui se pose pour beaucoup de représentants et finalement pour beaucoup de politiques également au Sénat. C'est le rapport coût-bénéfice de cette affaire-là. Parce qu'il faut bien partir de ce que Benjamin Haddad disait, il faut partir de là pour arriver là, c'est que ça n'aboutira pas. Donc ce rapport coût-bénéfice doit prendre ça en compte. Ça n'aboutira pas, il ne sera pas destitué. En revanche, les dégâts qui peuvent être occasionnés, le retour de bâton qui peut être occasionné sur les démocrates, c'est quelque chose que les démocrates ne contrôlent pas forcément.
Ce qu'il faut comprendre, Laurence Nardon, c'est le flou qui entoure la notion même de grief à l'encontre d'un président américain pour qu'il soit destitué. Donc il faut rappeler que la Constitution est très ancienne, les Américains n'en ont pas changé plusieurs fois comme nous, donc ça remonte à 1787, et je crois qu'il y a à peu près 200 mots parfaitement ambigus qui définissent les différentes raisons pour lesquelles éventuellement un président pourrait être destitué.
Beaucoup moins, même, il me semble.
Moins de 200 mots.
C'est quelques lignes hein, sur l'impeachment. C'est dans l'article 2 de la Constitution. Je crois que c'est la Constitution elle-même qui fait 200 mots. C'est un texte très très court. Et d'ailleurs, les Américains sont extrêmement fiers, à juste titre, d'être le seul pays qui opère sur une Constitution venue en ligne directe du siècle des Lumières. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, effectivement, en fait, la définition des raisons pour lesquelles on peut destituer un président, c'est... la trahison, la corruption et high crime and misdemeanors, c'est-à-dire des crimes importants ou des malversations. Mais comme disait Nixon pendant l'affaire du Watergate, les raisons pour lesquelles le Congrès peut déclencher une destitution sont celles pour lesquelles le Congrès est d'accord au moment où il vote. Donc en gros, il y a une marge. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il y a une marge d'interprétation énorme de la part des élus de la Chambre et du Sénat pour décider de ce qui fait de ce qui fait
Richard une Nixon lui-même menacé de destitution et qui a démissionné avant le vote du Sénat parce qu'il savait qu'il serait lâché par
démissionné avant le vote de la Chambre, donc avant même le vote que de la procédure s'enclenche. Clinton, pour sa part, en 98 ou 99, avait été condamné. Pas condamné, mis en accusation, c'est-à-dire le vrai terme qui veut dire impeachment, par la Chambre, puis acquitté par le Sénat, ce qui risquerait...
En 96.
En 99. 98-99, les deux années.
Donc c'était l'affaire Monica.
Exactement. Et comme le disait Laurie tout à l'heure, Trump pourrait éventuellement être mis en accusation par la Chambre, mais certainement pas condamné par le Sénat. Mais... si vous parlez de l'attitude des élus démocrates, effectivement, leur changement d'avis ces derniers jours est extrêmement important et marque vraiment l'importance du scandale en cours par rapport à celui de l'affaire Mueller. C'est-à-dire qu'on est vraiment un cran au-dessus.
Alors, il faut rappeler l'affaire Mueller, donc Robert Mueller, le procureur spécial qui, pendant des mois, a enquêté sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Oui. Et ces deux affaires sont liées parce que l'obsession de l'équipe de Trump, c'est évidemment le rôle que un serveur informatique ukrainien aurait pu jouer dans l'affaire de l'ingérence russe. C'est étroitement imbriqué, l'affaire ukrainienne et l'affaire russe.
Sans doute. En l'occurrence, là, on parle du fils de Joe Biden, Hunter Biden, et de son activité lorsqu'il était au board d'une compagnie de production d'énergie ukrainienne.
Au moment où son père était vice-président.
Exactement.
Aux côtés de Barack Obama.
Donc pour l'instant, il y a rien contre lui, mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'un coup de tonnerre en ce qui concerne la politique américaine. Mais je pense qu'il faudrait quand même bien séparer l'attitude des élus de la Chambre et avec les possibles difficultés qu'ils pourraient avoir dans leur réélection s'ils se décident à voter pour une mise en accusation du président, et l'attitude des nombreux candidats de la primaire démocrate qui prennent un peu leur distance ces jours-ci avec le scandale, parce que eux, ils sont dans la perspective de l'élection, ils veulent définir un programme positif pour le pays, être élus pour leurs idées, et ils n'ont pas trop envie d'être vus comme des gens qui sont anti-Trump, parce que ça nuirait à leur chance d'élection. Je pense à Joe Biden ou à Elizabeth Warren, par exemple.
Ils sont donc les deux candidats démocrates à l'investiture, oui. Et qui font la course en tête. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Nancy Pelosi a exprimé, donc dès mardi, qu'il était de son devoir constitutionnel d'enclencher cette procédure. Donc, ce n'est pas son intérêt politique.
Non.
On sait qu'elle a résisté pendant 3 ans à quelques jeunes femmes qui sont très à gauche par rapport au Parti démocrate traditionnel. Il y a eu différents scandales, effectivement, comme le rappelait Benjamin Haddad, qui auraient pu suscitait ou qui encourageait, en tout cas, des tentatives de destitution. Et donc là, Nancy Pelosi se rend compte que, effectivement, le centre de gravité du Parti démocrate bouge en faveur du processus.
Et ce que je trouve très intéressant et presque admirable, c'est que tous ces élus et Nancy Pelosi, lorsqu'ils changent d'avis et qu'ils décident de sauter le pas pour lancer cette procédure de mise en accusation du président, en fait, on a l'impression qu'ils ne le font pas par intérêt politique, c'est même assez risqué. Et donc, pourquoi le font-ils? Et je pense qu'ils le font tout simplement pour des raisons éthiques. C'est-à-dire que maintenant, le scandale, enfin ce président et ce scandale ukrainien est tellement incroyable, parce qu'il n'y a pas seulement la conversation, mais il y a tous les efforts pour dissimuler la conversation qui sont arrivés ensuite au mois d'août, extrêmement important.
Parce que ça nous ramène
et
à
donc,
Nixon.
Le fait de cacher les choses. Et donc, je pense qu'ils le font par morale, par sens moral, et c'est quand même relativement bien de leur part.
Le terme cover-up qu'on entend beaucoup, parce que l'administration Trump a essayé de changer la conversation de serveur pour le masquer, le terme cover-up est un écho direct de l'affaire du Watergate. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de filigrane qui nous ramène au Watergate et donc à quelqu'un qui a été obligé de démissionner parce que sinon il allait de toute façon être mis en accusation et destitué. Donc il y a cette dimension qui s'ajoute en fait et qui accentue. Mais quand la Constitution est très floue, elle est volontairement très floue, elle est réinterprétée par la Cour suprême notamment depuis deux siècles presque et demi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en complément de ça, on a les écrits d'un certain nombre de fondateurs, notamment Hamilton, Madison, etc. dans le Fédéraliste. Et je suis allé regarder ce qu'il disait là-dessus
pour expliquer. Expliquez-nous ce qu'est le fédéraliste.
En fait, c'était au moment de la ratification de la Constitution par un certain nombre de référendums dans les États, il y avait une campagne d'information, de persuasion dans les journaux pour inciter les gens à voter pour la Constitution. Donc ce sont notamment trois des fondateurs qui écrivent sous pseudonyme. C'est ce qui devient en fait maintenant un livre, mais qui à l'origine était une sorte de feuilleton, qui s'appelle Le Fédéraliste, ou The Federalist Papers. Et dans chaque numéro, on nous explique pourquoi la Constitution est bien en regard de tel ou tel point particulier. Un et d'autres, mais un en particulier de ces épisodes, parle justement des pouvoirs du Sénat et des pouvoirs du Sénat en matière d'impeachment. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que c'est pas beaucoup plus clair et ça reste extrêmement plastique. En revanche, ce que Hamilton dit clairement, c'est que un, ce n'est pas quelque chose de juridique mais de politique, et que puisque c'est quelque chose de politique, lui il a une certaine méfiance envers ça, même s'il met ça dans la Constitution, parce que il craint dès 1788 l'aspect polarisant, extrêmement polarisant de la chose.
Et là, Benjamin Haddad, nous retournons vous rejoindre à Washington. On voit bien cette polarisation qui se fait à nouveau sur la personnalité même de Donald Trump, qui lui applaudit en disant « Vous voyez à quel point on me hait, c'est à nouveau la chasse aux sorcières. »
C'est la stratégie de Donald Trump depuis le début. En 2016, quand il est élu à l'élection présidentielle, le Congrès, les médias ont le taux de popularité le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. 15% des Américains sont satisfaits de leur Congrès, les Américains n'ont plus confiance dans les médias, et en particulier les Républicains. Donc il sait très bien que quand il balance des pavés dans la mare, quand il dit des choses outrancières, ses électeurs ne sont pas forcément d'accord, mais ils voient un tel barrage de réactions effarouchées de la part de ces élites qu'ils détestent sans, que ça les saoule autour de Donald Trump. Et c'est cette stratégie de se victimiser, de se poser en martyr d'une élite qu'il n'accepte pas, d'une élite qui méprise le reste de sa population, ses électeurs. Et ça, il le sent très bien, il le fait très bien, il est extrêmement habile. Et donc on le voit, il est complètement polarisant. Et tout d'ailleurs, tout ce qui se passe aux États-Unis depuis 3 ans est vu au travers de cette grille de lecture partisane. Si vous prenez quelque chose comme le rapport Mueller, c'est un rapport très long, très complexe, la plupart des gens ne l'ont pas lu. Donc quand on regarde les sondages, 40% des Américains, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Donald Trump, considèrent qu'il exonère totalement Donald Trump, 55% des Américains considèrent qu'il est accablant pour Donald Trump. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se fait au travers de cette grille de lecture.
Ce qui veut dire que, en fait, les lignes politiques sont pratiquement statiques depuis 3 ans. Ça bouge très peu, même s'il faut quand même rappeler que les démocrates ont récupéré la majorité à la Chambre des représentants.
Alors, ça bouge très peu, et c'est quand même quelque chose qui est assez stupéfiant quand on voit tout ce qui se passe, tout le commentaire, l'analyse, et en fait, effectivement, les lignes bougent très peu. Alors, il y a un certain nombre de républicains modérés qui aujourd'hui ne soutiennent plus ou qui sont partis chez les démocrates, mais l'essentiel aujourd'hui pour les deux camps, c'est de mobiliser leur base. Ça a été la force de Donald Trump par rapport à Hillary Clinton en 2016, c'est que des républicains qui ne s'étaient plus déplacés depuis longtemps sont déplacés en masse en voyant enfin un candidat qui allait les défendre, être offensif, et à l'inverse, beaucoup de démocrates ne se reconnaissaient pas trop dans Hillary Clinton, comprenaient pas exactement ce qu'elle voulait faire. C'est pour ça d'ailleurs, quand on regarde la campagne de 2020, il y a un vrai débat au sein des démocrates entre ceux qui disent « il nous faut un modéré pour qu'il soit éligible et qu'il soit le mieux à même de battre Donald Trump », c'est la stratégie des discours de Joe Biden, et à l'inverse, des gens comme Warren Sanders qui disent « pas du tout, il faut galvaniser notre base avec un message fort, avec une forme de message socialiste, populiste, économique, et c'est comme ça qu'on arrivera à récupérer des voteurs, des électeurs qui ne votent pas forcément pour les républicains, mais qui ont juste déserté, qui ne se déplacent plus dans un pays où l'abstention est assez importante, comme vous le savez. Et donc, on est essentiellement dans un jeu de participation. C'était le cas dans les midterms, effectivement, qui ont vu les démocrates remporter la Chambre des représentants, et ce sera le cas aussi dans l'élection de 2020.
Merci Benjamin Haddad d'avoir été avec nous en duplex depuis Washington. Alexandra Goujon, on ne vous a pas encore entendu, mais il y a l'autre volet de cette affaire qui est tout à fait passionnant aussi, qui est le volet ukrainien. Parce que on constate qu'il y a une sorte d'obsession ukrainienne dans le clan Trump, et ça depuis la campagne de 2015-2016, avec son premier directeur de campagne qui est maintenant en prison aux États-Unis, Paul Manafort, qui lui était un très proche conseiller, largement, grassement payé d'ailleurs, du président ukrainien qui s'appelait Yanukovych, donc celui qui a précédé Poroshenko, qui lui-même était le prédécesseur de l'actuel Zelensky, qui, d'après la conversation dont la Maison-Blanche a donné un compte-rendu, dit à Trump « Vous êtes mon modèle, on a beaucoup appris de vous ». Enfin, il faut dire qu'il est aussi comédien à la base, Zelensky.
Oui, tout à fait. Je crois que effectivement, dans cette transcription, on voit à plusieurs reprises cette déférence à l'égard du président américain. Cette déférence, qui, je pense, est liée à plusieurs choses, qui est liée au fait que, bien évidemment, il y a un déséquilibre. D'ailleurs, la presse parle d'homologue ukrainien. On dit pas Zelensky parce qu'on ne sait pas vraiment forcément nécessairement que c'est.
Non, mais puis il est le président élu à une très très large majorité.
Tout à fait. Plus de 70%. Et donc, bien évidemment, il y a cette déférence qui est liée au fait que les États-Unis sont un allié de l'Ukraine depuis un certain temps, et notamment depuis l'annexion de la Crimée et depuis la guerre dans le Donbass.
Et donc
il y a un besoin de soutien de toute façon
par rapport à Vladimir Poutine, évidemment.
Par rapport à Vladimir Poutine. Et en fait, la crainte. Parce qu'en fait, on parle d'affaires ukrainiennes, mais il y a quand même la Russie. Et notamment, on a parlé de ce qui s'est passé avec Mueller. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a appris qu'il y avait une espèce de connivence entre Trump et Poutine, qui a des hauts et des bas, comme toute relation du président américain avec ses homologues, mais on a eu peur, justement, que le soutien américain soit moins important. Or, à l'inverse, par exemple, alors que Obama s'était refusé à livrer toute arme létale à l'Ukraine, eh bien Trump, c'est sous l'administration Trump que cela a été rendu possible. Et d'ailleurs, dans cette histoire d'appel téléphonique, oui, il y a une aide américaine.
Alors il faut expliquer
une aide militaire,
ça.
Voilà.
Mais qui est presque un chantage. C'est-à-dire que le président américain dit à Zelensky, ce serait quand même très chouette. Si vous pouviez pousser l'enquête sur le fils Biden qui a fait des choses horribles. Alors expliquez-nous d'abord cette histoire du fils Biden en Ukraine.
Alors l'histoire du fils Biden, il faut dire que c'est pas de ça dont on parle le plus en Ukraine. En fait, c'est une entreprise de prospection gazière qui est détenue par un oligarque qui a été sous Yanukovych en fait ministre de l'écologie et des ressources naturelles, et qui a bénéficié d'ailleurs d'un certain nombre d'avantages. Cette entreprise, plusieurs enquêtes enquêtes ont été lancées par différents d'ailleurs procureurs. Et en 2014, lorsqu'il y a un changement de pouvoir, un certain nombre de personnalités sont appelées au conseil d'administration, dont Biden, mais également par exemple l'ancien président polonais Kwaśniewski. En fait, Biden participe au conseil d'administration, rémunération qui est mentionnée d'ailleurs par Donald Trump, y compris dans sa rencontre avec Zelensky, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont rencontrés donc récemment. Si l'appel téléphonique a eu lieu en juillet, là ils se sont vus à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce que montre aussi cette transcription, c'est qu'en fait, ça c'est ce que disent un certain nombre d'analystes ukrainiens, c'est qu'en fait les Américains sont pas forcément, ou Trump, très au fait de la politique ukrainienne, parce qu'il parle d'un procureur qui aurait été viré, donc en l'occurrence c'est Shokin, il ne le nomme pas, en 2016, mais en fait ce procureur certes avait lancé une investigation, mais il y en a un autre qui a lancé une autre investigation après,
oui,
sous Poroshenko.
Il faut bien dire, dans des affaires de corruption foisonnantes en Ukraine.
Voilà.
Mais c'est là où l'on voit aussi... Madame Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. Le rôle d'un personnage, lui aussi, alors digne d'une série, qui s'appelle Rudy Giuliani, et qui, ancien maire de New York, mais qui se rend plusieurs fois en Ukraine pour essayer d'effacer les traces d'un certain nombre de proches de Donald Trump, et qui joue un rôle clé dans cette affaire.
Oui, pour le New York Times, c'est même le pire meilleur ami du monde. C'est l'avocat personnel de Donald Trump depuis mars 2018. Et vous le rappeliez, le monde entier l'avait découvert en tant que maire de New York au moment du 11 septembre 2001. Alors, quel est son rôle exact auprès de Trump, se demande le Washington Post. Ce qui est sûr, c'est que ce républicain de longue date a l'oreille de Trump et sa confiance pour gérer toutes les affaires qui le gênent, de celle de l'actrice porno Stormy Daniels à celle de son ex-directeur de campagne, Paul Manafort, car il faut rappeler qu'en effet, Giuliani s'est rendu en Ukraine, c'est à l'origine dans le cadre de la défense de Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Trump, qui avait été mis en cause dans l'enquête de Robert Mueller sur l'ingérence russe. Alors, la New York Review of Books explique que c'est en cherchant à disculper Manafort, qui avait œuvré comme conseiller, vous le rappelez, de l'ex-président ukrainien Yanukovych, que Giuliani est tombé sur les affaires de Hunter Biden en Ukraine, et qu'à partir de là, il a semblé décider à jouer un rôle diplomatique non officiel, militant notamment pour le départ de l'ambassadrice américaine en Ukraine nommée sous Obama. Alors, la publication du compte-rendu de la conversation téléphonique entre Trump et Zelensky le montre bien. Il y a un rôle trouble de l'ancien maire de New York qui est cité 5 fois dans le document de 5 pages. Pour CNN, le transcript de la conversation confirme que Giuliani a ce rôle hybride, officiant à la fois en tant qu'avocat, porte-voix pour sa campagne à venir, diplomate officieux et chien d'attaque.
Et alors, vous citez CNN, il y a eu cet entretien hallucinant de Giuliani à CNN, où dans la même phrase, il dément toute espèce de chantage sur le président ukrainien pour confirmer le chantage dans la même phrase, quelques minutes après. Mais Amdam, il y a un autre personnage dont il faut quand même parler, qui est probablement la seule femme qui fasse un tout petit peu peur à Donald Trump, parce qu'elle ne correspond à aucun des critères qui lui sont familiers, c'est évidemment Nancy Pelosi, la patronne de la Chambre des représentants.
Oui, le New York Times la qualifie même d'icône de la politique au féminin. Le journal rappelle son extraordinaire longévité, 30 ans au Congrès, 15 ans à la tête du groupe parlementaire démocrate. Elle était également, rappelle le journal américain, à la commission spéciale sur le renseignement qui surveille le travail des agences de renseignement, et elle utilise cette expérience, nous dit le journal, dans cette procédure contre Trump. Elle peut s'appuyer sur des qualités que Trump n'a pas, à savoir une connaissance précise de la communauté du renseignement grâce à 25 ans de travail avec eux. Ce qui fait d'elle, nous dit le New York Times, la personne idéale pour confronter Trump sur ces questions. Alors, c'était la première femme à occuper le poste de présidente de la Chambre des représentants en 2007. Elle a repris ce poste en janvier 2019, vous le rappeliez tout à l'heure, après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat. Alors, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle déclenche la procédure plus tôt, mais comme l'explique le New Yorker, elle a attendu le bon moment pour faire tapis contre Trump. Et à vrai dire, Nancy Pelosi, c'est quelqu'un qui n'a un peu rien à faire de ce qu'on pense d'elle, selon le magazine Time. Elle a grandi dans le Little Italy de Baltimore des années 50 et elle sait ce que ses ennemis pensent d'elle. Elle aura bientôt 80 ans. Elle est jugée trop vieille, trop clivante, trop acharnée. Et elle devrait passer la main. Et elle était prête à le faire si Hillary avait gagné. Mais elle s'est rendue compte que si elle partait, il n'y aurait tout simplement plus eu de femmes dans les arcanes du pouvoir. Alors le magazine américain Fortune s'interroge. Est-ce que cette fois-ci, encore, elle gagnera son pari? Il est trop tôt pour le savoir. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle a fait mardi dernier était la définition d'une démonstration de pouvoir.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Laurence Nardon, je rappelle que vous êtes la responsable du programme États-Unis-Amérique du Nord à l'IFRI. Expliquez-nous ce qui se passe dans le camp républicain. Parce que la tradition du Grand Old Party était très contraire, non seulement à la personnalité de Donald Trump, mais aussi à la politique qu'il impose aux États-Unis depuis 3 ans.
Oui, je crois qu'effectivement, le Parti républicain, depuis la convention républicaine de l'été 2016, lorsque Trump a remporté cette convention et est devenu le candidat officiel du parti, le parti, les républicains, sont dans un état de subjugation, de sidération totale devant Trump. Ils ne l'aiment pas, parce que ceux qui sont conservateurs parmi eux, ils sont nombreux, n'aiment pas du tout ce personnage de jet-setter new-yorkais qui a été divorcé deux fois, pour l'instant, sans compter les affaires adultères, qui ne va pas à la messe, enfin qui est pas du tout quelqu'un qui leur convient. Mais il les a pris en otage d'une certaine manière. Et alors, sur certains fondements idéologiques, ils sont sur la même ligne, par exemple sur l'anti-environnementalisme, par exemple, les sujets de contrôle de l'énergie, mais en revanche sur beaucoup d'autres sujets ils ne sont pas du tout d'accord, effectivement, sur des sujets comme le respect de l'austérité budgétaire, puisque Trump a laissé filer le déficit budgétaire. Et puis le gros point de désaccord, excusez-moi, j'y reviens, c'est le commerce international.
Ah oui, parce la mondialisation. Traditionnellement, les républicains sont pour le libre-échange et ils sont pour l'immigration. Enfin, ils l'étaient.
Ils sont pour
parce que
business immigration, c'est-à-dire l'immigration pour fournir des travailleurs
bon marché.
Exactement. Ouais. Et du coup, depuis le début de la présidence Trump, très peu parmi eux accepte de dire ce qu'il pense réellement. On a eu John McCain qui a tenu tête au président. Bon, il est mort l'été 2018.
Et sa veuve continue de dire, du temps de mon mari, le Parti républicain avait encore un peu de dignité.
Et sa fille, Meghan McCain, est une commentatrice conservatrice mais anti-Trump dans une émission qui s'appelle The View sur ABC, où elle est assez bonne. Membre du Congrès qui résiste un peu à Trump aujourd'hui, c'est Mitt Romney. Mais enfin, il est bien seul.
Ancien candidat à la présidence, d'ailleurs, Romney. Mais qui est un mormon,
qui est
sénateur
un
de l'Utah.
De l'Utah, puisqu'il est mormon, et donc il est bien seul. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on est républicain aux États-Unis et qu'on regarde Fox, qu'on écoute qu'on regarde la télé Fox et qu'on lit des médias.
Il appartient à Rupert Murdoch, donc.
Qu'on écoute des médias conservateurs, on est dans un autre monde par rapport au monde de Washington dont Benjamin nous parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on écoute Fox ces jours-ci, leur commentaire sur l'affaire ukrainienne est aux antipodes de ce qu'on vient de se dire depuis une heure. C'est-à-dire que pour eux, d'abord, le lanceur d'alerte n'était pas sur place à la Maison-Blanche. Il ne fait que rapporter ce qu'on lui a dit. Donc, il faut mettre en doute ses propos, déjà. Ensuite, cette histoire d'impeachment va diviser le pays alors qu'il faudrait le réunir, ce qui est quand même étonnant de la part de Fox. Et puis, troisième raison, il y a Trump a raison de vouloir enquêter sur les histoires de corruption en Ukraine, parce qu'on sait très bien que le fils Biden a très certainement été très corrompu. Voilà ce qu'on écoute sur Fox aujourd'hui. Et donc les républicains écoutent ça, et pour beaucoup d'entre eux, le croient de bonne foi.
Tandis que, les démocrates regardent d'autres chaînes comme MSNBC qui est outrageusement pro-démocrate. Enfin, on est dans un monde dont on n'a pas idée.
Dans la politique américaine, en Europe, pour l'instant, peut-être en Grande-Bretagne, c'est un peu plus comme
c'est
ça.
Vrai.
Mais on est dans un monde où on traverse le miroir d'un côté à l'autre de l'échiquier politique de manière totalement schizophrène, j'ai envie de dire.
Laurie Kenton, l'impact de ce feuilleton sur la campagne en cours une campagne qui, en fait, n'existe que du côté démocrate. Parce que du côté républicain, il y a bien trois candidats. On se demande s'ils vont au sacrifice poussé dans le dos par le clan Trump qui dit il faut quand même faire semblant qu'il y ait une primaire côté républicain.
Ce sont des opposants, justement. On parlait tout à l'heure de ceux qui s'opposent.
Oui, mais enfin,
ils n'ont aucune chance de gagner. Mais enfin, c'est des candidatures de témoignage qui n'existeraient pas s'il avait mis le parti au pas. Et donc, ce qu'on entend, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on en entend certains, mais quand ils claquent la porte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de démissions à la Chambre, essentiellement de gens qui claquent la porte au bout d'un mandat, deux mandats ou beaucoup plus, en disant « je ne peux pas continuer à servir mon pays sous l'administration Trump, et donc je ne me représente pas ».
Et donc ça, c'était et c'est toujours interprété comme une chance éventuel pour des candidats démocrates.
Ah oui, parce que ça ouvre le siège. Le sortant, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, le sortant a une sorte de prime. Parce qu'il est plus connu, parce que généralement il a une certaine forme d'adhésion et donc il va pas gagner systématiquement, mais il a plus de chances de l'emporter. Quand un sortant ne se représente pas, le siège est dit ouvert et donc le républicain nouveau qui va se présenter à ce siège-là n'a pas l'avantage induit du sortant. Et donc ça ouvre dans un contexte anti-trumpisme, des chances accrues pour le candidat ou la candidate démocrate dans ce siège-là. Et donc ça peut faire basculer un siège dans l'escarcelle démocrate, que ce soit à la Chambre et donc accentuer leur majorité, ou au Sénat et donc peut-être leur faire récupérer un ou deux sièges et éventuellement la majorité.
Mais venons-en à Joe Biden. Encore une fois, c'est lui qui est directement mis en cause par le camp Trump avec cette tentative de le salir à travers l'histoire de son fils en Ukraine. Jusqu'à quel point est-ce que Joe Biden, qui faisait la course en tête, qui maintenant a été rattrapé par Elizabeth Warren, sénatrice du Connecticut,
du Massachusetts,
et qui est nettement plus à gauche que Biden, jusqu'à quel point est-ce que Biden va souffrir de cette histoire ? Est-ce que ça va abîmer sa campagne ?
L'érosion du soutien de Biden date d'avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une campagne médiatique assez intense contre Biden. Des grands médias, disons, plutôt classés à gauche. Et pro-Warren. Ça, c'est quand même assez net. Il y a beaucoup de témoignages contre le fait que Biden est trop vieux, est un peu gaga, il hésite, il sait plus ce qu'il dit, il est pas bon dans les débats. Il y a beaucoup de bashing contre Biden.
Biden, à quel âge ? 77.
À peu près, oui. Et c'est vrai qu'il a pas été très très bon. C'est vrai qu'il est un générateur de gaffes sans pareil. Alors, il est toujours en train de se mettre en avant son rôle de vice-président d'Obama en disant « Regardez, c'est un petit peu mon totem ». Et ce qu'on remarque, c'est que, au moins localement, on a de plus en plus de sondages qui montrent que Elizabeth Warren arrive maintenant à faire la course en tête. Parfois,
elle soutient à fond la procédure de destitution.
Elle est beaucoup plus... Alors, comme c'est une candidate, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai, comme c'est une candidate à la présidence, elle va évidemment la soutenir, elle va évidemment dire Trump est méchant, Trump est raciste, Trump, etc. Mais elle va beaucoup plus s'accentuer sur son programme économique, puisque elle a un plan pour absolument tout. Donc, elle va beaucoup plus s'appesantir sur la façon dont elle va reconstruire, sauver l'Amérique, etc., que sur l'évidence qu'il faut mettre Trump en accusation.
Tandis que Joe Biden, lui, va devoir quand même riposter aux attaques qui ne cesseront de grandir du côté républicain.
Par exemple, dans le Washington Post, il y avait une tribune très intéressante, parce que le Washington Post est quand même plutôt à gauche, mais il y a une tribune d'un type qui s'appelle Mark Thiessen, qui est plutôt à droite, qui expliquait clairement que tout ça n'est pas très clair, et on n'en parle absolument pas parce que c'est Biden, mais quand Biden était vice-président, son fils, qui n'y connaît rien au gaz naturel et rien à l'Ukraine, s'est retrouvé propulsé ici.
Oui, c'est ce qu'Alexandra nous expliquait.
Oui, mais surtout, il insiste bien sur le fait qu'il n'avait absolument aucun prérequis, aucune expertise là-dessus, et que la carrière de Hunter Biden...
Dans les conseils d'administration, ça arrive, paraît-il.
Mais que la carrière des deux Biden est quand même assez parallèle, et en fonction des intérêts du père.
Alors, il y a aussi l'autre versant, Alexandra Goujon, qu'est-ce qui se passe côté ukrainien ? Parce que... encore une fois, pour ce jeune président, jusqu'à il y a quelques mois, un comique avec sa propre série télé, qui promet de tout nettoyer, et on s'aperçoit en fait, toujours dans cette conversation avec Trump, qu'il a des propos pour le moins compromettants sur la manière dont il conçoit la justice, par exemple.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Effectivement, ce qui va alerter les observateurs en Ukraine, ce qui les alerte le plus dans cette conversation, c'est lorsqu'il répond à Trump « Oui, je vais voir cela. Je viens d'avoir une majorité au Parlement, puisque la conversation téléphonique a lieu après les élections présidentielles. Apparemment, d'ailleurs, Zelensky avait refusé les contacts, y compris voulus par Giuliani avant. Et dit « Je viens d'avoir une majorité au Parlement et le nouveau procureur sera 100% mon homme. » Et là, bien évidemment, par rapport à ce qu'il a pu dire sur la justice indépendante, la lutte contre la corruption, eh bien, c'est ce qui inquiète, l'instrumentalisation de la justice, une fois de plus, si je puis dire. Parce qu'en fait, les affaires Biden ou Manafort, c'est notamment l'affaire Manafort qui a pu faire emprisonner Manafort aux États-Unis, mais qui n'a pas eu lieu en Ukraine. Et justement, d'ailleurs, l'idée, c'est éventuellement de la relancer, cette affaire, en Ukraine, sur l'affaire strictement ukrainienne. La question qui se pose, c'est l'instrumentalisation de la justice. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre d'observateurs très engagés dans la lutte contre la corruption voient aussi comment Trump parle de la justice et d'une éventuelle possibilité d'instrumentalisation par un pays qui est quand même vu parfois comme un modèle. C'est-à-dire, les démocraties sont quand même vues en Ukraine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, comme respectant cette indépendance judiciaire. Donc là, on se rend compte finalement, si Trump lui-même, alors, avec bien évidemment cette personnalité particulière que les Ukrainiens connaissent.
Et Zelensky dit aussi, je crois, dans cette conversation, que oui, les Européens, donc Macron, Merkel, ce n'est que de la parlotte. Oui. Et en fait, il n'y a que les États-Unis qui sont capables de livrer des armes dont il estime avoir besoin, et c'est probablement vrai, pour venir à bout de ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass.
Alors là-dessus, Zelensky s'est expliqué. C'est-à-dire, encore une fois, cette conversation a lieu en juillet. Au mois de juillet, c'est le moment où la Russie est réintégrée, sous pression d'ailleurs, enfin sous pression, avec le soutien, on va dire, notamment de Macron, est réintégrée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Avant cela, en raison de l'annexion de la Crimée, les députés russes ne pouvaient pas siéger à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Plus, il y a l'affaire Nord Stream 2.
Le gaz, le gaz.
Et donc, en fait, Zelensky dit « Oui, mais ça, mes partenaires, enfin, apparemment, mes partenaires européens comprendront que je sois critique avec eux, parce qu'effectivement, on est à une période bien particulière, mais il faut savoir que Zelensky a, depuis cette conversation téléphonique, vu Macron, vu Merkel, qu'on est dans l'idée qu'il puisse y avoir, justement, une réunion sous le format de Normandie concernant la guerre dans le Donbass, et c'est le point principal pour Zelensky. Donc lui, en fait, cette conversation, ce dont en fait il a peur, c'est que ça devienne clivant, et ça limite, donc clivant aux États-Unis, et qu'en fait, alors que aux États-Unis, sur la question ukrainienne, qu'on soit démocrate ou républicain, il y avait un soutien politique et militaire, que si ça devient trop clivant, en fonction de la force politique qui arrive au pouvoir et de l'agenda politique américain, on puisse avoir moins de soutien à l'Ukraine.
Et ça permet à Moscou de dire, regardez, Zelensky est une marionnette de Washington.
Voilà, exactement. Ce qui, dans cette histoire, bien évidemment, ces derniers temps, il y avait un dialogue qui avait été renoué donc avec Poutine. Ça permet aussi, certains le disent, que cette affaire ukrainienne permet de venir masquer l'affaire russe. Je reviens aussi à l'instrumentalisation et que quelque part, effectivement, la Russie, à la fois dans la relation aux États-Unis et dans la relation avec l'Ukraine, en sort, on va dire, plutôt confortée. Et donc, c'est ce qui se dit aussi en Ukraine. C'est-à-dire qu'on est instrumentalisé aussi par Trump qui veut faire oublier l'affaire russe.
Laurence Nardon, c'est là où on voit cette imbrication des scandales. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à partir du moment où on a affaire à un président américain qui ne connaît pas les institutions du pays qu'il dirige, et qui ne répond à aucun des critères classique, disons, de comportement, et c'est pas un jugement de valeur, là, c'est véritablement un fait, tout est possible. C'est-à-dire que le prochain épisode de ce feuilleton, il y aura quoi? Il y aura l'audition du fameux lanceur d'alerte. Puisque, semble-t-il, le patron du renseignement a dit oui, il va être autorisé à comparaître de façon libre et ouverte.
Mais quel que soit le prochain épisode ou les développements de l'affaire, la ligne de Trump sera toujours la même, c'est-à-dire qu'il est une victime innocente et incomprise des médias de gauche scandaleusement acharnés à sa perte. Je pense pas que la personnalité du président va changer. Depuis le début, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, enfin qui ne semble pas comprendre les différences qu'il y a entre sa personne privée, sa personne en tant que businessman, les intérêts politiques qu'il peut avoir de manière très légitime, hein, ses intérêts politiciens tactiques à essayer de faire sortir un scandale sur Biden, oui. pour gagner, pourquoi pas. Et puis, les devoirs de sa charge en tant que président des États-Unis. Depuis le début, il y a un mélange des genres qui fait penser à un mafiosi, vraiment. Enfin, il n'en est pas encore à dissoudre ses ennemis dans la baignoire, moi. Il a dit des mots.
Ce serait dommage qu'il vous arrive quelque chose, quand même.
Enfin, il ne fait que le dire pour l'instant, mais c'est vrai.
On imagine bien Marlon Brando
avec la tête de cheval sur l'oreiller, comme dans Le Parrain. Bref, ne nous égarons pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de mafieux dans cette espèce de mélange des genres que pratique le président Trump aujourd'hui et qui est quand même très inquiétant. Et depuis 2015 que nous suivons Trump, il n'a cessé de franchir des fameuses lignes rouges. Vous savez, je me souviens encore de la fois où il s'était moqué d'un journaliste handicapé dans un meeting. Mmh. Et tout le monde s'était dit, là, c'est pas possible, il va chuter dès demain.
Et il s'est moqué de John McCain, qui avait été prisonnier du Viet Cong en disant, moi, je suis pour les gens qui gagnent.
Ce n'est pas un héros parce qu'il s'est fait arrêter par... Oui, oui, absolument. Et donc, jusqu'à présent, il a franchi les lignes rouges, les unes après les autres, sans aucune conséquence. Peut-être que là, avec cette affaire ukrainienne, peut-être par un effet de cumulation, peut-être parce que ça franchit quelque chose qui n'avait pas encore été franchi. Cette procédure de mise en accusation se met enfin en route.
Laurie Kenton, c'est aussi la loi du vacarme. Et l'on sait que jusqu'ici, c'est ce que Donald Trump adore. Plus il y a de vacarme, plus ça fait du bruit, plus le narratif, comme on dit en franglais, le sert. En tout cas, c'est en tout cas sa tactique.
Tout est ramené à lui. Il est narcissique au dernier degré, c'est pas un jugement de valeur. Tout est ramené à lui. Il arrive à se faire faire de la publicité gratuite en permanence. C'est extraordinaire de ce point de vue-là. Il suffit qu'il fasse un tweet le matin et craque, toutes les chaînes en parlent gratuitement toute la journée. Là, il y a tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la victimisation, etc. Ça, c'est assez classique. Après, il y a un petit peu, je sais pas s'il connaît Charles Pasqua, mais on en a pas mal parlé ces derniers temps, l'idée de créer une affaire dans une affaire, que plus personne n'y comprenne rien, cette espèce de confusion, ce doute qu'on va instiller, pas chez tout le monde, pas chez les lecteurs du New York Times, mais chez les auditeurs de Fox, sur un certain nombre de détails, tout ça va fait qu'on parle de lui, qu'il n'y a rien de vraiment, il n'y a pas de smoking gun, comme on disait à l'époque du Watergate, il n'y a pas de pistolet fumant qui accable Trump. Et donc, pour l'instant, il bénéficie d'un certain doute. Alors, jusqu'à quand? On ne sait pas. Quelles sont les révélations de demain et d'après-demain? On ne sait pas. C'est à peu près toutes les 24 heures maintenant. Mais cette stratégie du vacarme, cette stratégie de la confusion, cette stratégie du tout revient à lui, c'est quelque chose qui l'affectionne, parce qu'il est au centre de l'attention.
Laurence, le côté démocrate, encore une fois, on voit un parti qui reste extraordinairement embrouillé dans sa propre stratégie, qui ne s'est pas vraiment remis de la défaite d'Hillary Clinton et de la machinerie Clinton, qui tenait quand même ce parti, à commencer par les finances du Parti démocrate. Comment est-ce que cette procédure d'impeachment, et vous le disiez tous les trois tout à l'heure, qui est un processus politique sur le plan juridique, probablement ça n'aboutira pas, même s'il faut quand même rappeler que les sénateurs peuvent voter de façon anonyme. Mais on imagine mal, comme vous nous l'avez expliqué, que suffisamment de sénateurs républicains se rebellent contre un président républicain. Comment est-ce que le Parti démocrate peut utiliser au mieux, ou de la façon la moins nuisible, nocive pour lui, cette affaire?
Oui, c'est intéressant effectivement, parce que cette histoire d'impeachment donc arrive au moment où la campagne démocrate bat son plein. Et elle est particulièrement intéressante cette année, puisque, comme vous le disiez, c'est la fin de l'ère Clinton au Parti démocrate, à la fois sur les personnes et sur les idées. C'est-à-dire que tant qu'Hillary était la candidate en titre pour 2016, les nouvelles générations démocrates n'ont pas pu émerger dans le parti. C'est pour ça qu'on a 23 candidats, enfin 23 au printemps dernier, ils sont un petit peu moins maintenant, parce que finalement il n'y avait pas eu de sélection dans les nouvelles générations. Donc il y a un choix de personnes à faire, mais il y a surtout un choix d'idées. Et donc le parti aujourd'hui hésite entre des lignes modérées sur l'économie ou radicales, Biden, Warren, Sanders, ça c'est clair, et puis aussi des lignes différentes sur les questions de société, sur la question de politique des minorités notamment, entre un Biden de nouveau qui est pour défendre les classes moyennes blanches, qui est très populaire auprès de la communauté africaine-américaine d'ailleurs aussi, et puis d'autres candidats ou non-candidats, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez, qui est cette jeune élue du Congrès, qui est trop jeune pour se présenter à la présidence, mais ça viendra peut-être, et qui, elle, défend des politiques multiculturalistes vraiment très, très, très affirmées. Alors, comment maintenant cette histoire d'impeachment va jouer? Je pense que, une fois de plus, il faut pas qu'il tombe dans le piège, hein. Je pense que, jusqu'à présent, Trump a évité publiquement de s'en prendre à l'un ou l'autre des candidats de la primaire démocrate. Il s'en prenait surtout à Hillary Clinton, comme d'habitude.
Oui, ça c'était sidérant, oui, parce que son premier meeting électoral, il a dit à nouveau...
il n'a parlé que
d'elle. Abba Hillary, Mandela, comme il disait d'ailleurs il y a quatre ans maintenant.
Lock her up, enfermez-la. Je pense que sa stratégie, c'était pensé, parce qu'en fait sa stratégie c'est de ne pas s'en prendre à un candidat pour ne pas cristalliser l'attention sur cette personne et pour ne pas l'aider. Puisque jusqu'à présent, enfin maintenant ça se décante un peu, mais pendant très longtemps, aucun candidat n'émergeait réellement. Enfin bon, bref. Mais là, cette affaire ukrainienne l'oblige à s'intéresser beaucoup à Biden. Alors je pose la question, j'ai pas la réponse, je me demande si ça ne va pas dans un premier temps aider la candidature de Biden, parce que ça va focaliser l'attention de tout le monde sur lui. Alors bon, certains diront c'est parce qu'il est corrompu, je ne vais pas voter pour lui, mais d'autres risquent de dire Trump s'en prend à lui, donc je vais le soutenir. Donc je pense que dans les bureaux de Elizabeth Warren aujourd'hui, on doit plutôt s'inquiéter de cette affaire d'impeachment qui va focaliser l'attention sur son adversaire Joe Biden dans la primaire démocrate. Mais comme dans l'élection pour 2020, l'ennemi démocrate le plus dangereux pour Trump, à mon avis, c'est quand même Biden, parce qu'il lui ressemble, il est plus modéré. Si c'est Elizabeth Warren, qui est la candidate du Parti démocrate après la convention de l'été prochain, finalement les choses seront plus faciles pour Trump, parce qu'il pourra la peindre comme une bolchevique avec le couteau entre les dents.
Et le surnom dont il l'avait affublé, Pocahontas, parce que Elizabeth Warren revendiquait des origines indiennes. Et elle a dû prouver d'ailleurs qu'elle avait un peu de sang indien. Enfin, c'est encore...
Ça a dû retomber dessus, parce que les Amérindiens n'étaient pas contents du tout.
Mais surtout que c'est très, très malhonnête de sa part. Enfin, si c'est vraiment ce qui s'est passé, elle a revendiqué ses origines amérindiennes, plus ou moins vraies suivant son test ADN, pour obtenir de l'avancement professionnel. Enfin, c'est ce que dit Trump. Donc là, il a quelque chose pour l'accuser potentiellement. Et donc, en gros, cette affaire d'impeachment pourrait rebattre les cartes, ou en tout cas avoir un impact sur les candidatures des démocrates dans la primaire.
Laurie Kenton, on arrive pratiquement à la fin de cette discussion. On a l'impression que Donald Trump, tout en étant a priori le plus embarrassé, le plus englué dans ce qu'il faut bien appeler ce marécage ukrainien, parce que c'est quand même absolument invraisemblable que le président des États-Unis fasse une sorte de chantage en bloquant l'aide militaire à l'Ukraine, en attendant que son nouvel ami Zelensky surtout réveille toutes ces affaires de corruption du fils Biden. Néanmoins, Donald Trump continue d'écrire le scénario.
Oui, parce que c'est ce qu'il fait le mieux d'une certaine manière. Tout est autour de Trump, la lumière est autour de Trump, beaucoup plus que Biden d'ailleurs. Tout tourne autour de Trump et finalement on ne parle pratiquement pas de Biden et du fils Biden et de ce qui pourrait en fait être la réalité de l'affaire. Tout tourne autour de Trump, est-il une victime ou pas ? Est-il victime d'acharnement ou pas ? Et donc finalement pour Trump, l'idée c'est d'utiliser ça, de retourner la force de son adversaire d'une certaine manière, comme dans certains arts martiaux, et de l'utiliser à son profit. Donc c'est pour ça qu'il a ça plus un certain instinct qui peut parfois le tromper. Il a contre l'avis de Pence fait sortir
son vice-président.
Il a fait sortir la transcription du coup de téléphone. Pence au début était absolument contre cette idée parce qu'il pensait que ça allait l'incriminer. Trump a dit c'est comme ça. De toute façon c'est moi le président. Donc c'était comme ça. Donc, ensuite Pence s'est rangé à cet avis bien entendu.
Comme à chaque fois.
Et ben voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Hein. Parce que Trump était persuadé que ça allait jouer en sa faveur et que ça allait faire pchit que finalement on allait passer à autre chose.
Alors pour le moment, on ne passe toujours pas à autre chose de l'autre côté de l'Atlantique. Merci. Merci à vous tous en tout cas. Merci à vous, Alexandra Goujon, spécialiste du monde post-soviétique et singulièrement de l'Ukraine et de la Biélorussie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et à l'Institut des études politiques de Dijon. Merci à vous, Laurence Nardon. Vous avez publié il y a quelques mois un très bon ouvrage chez Taillandier, Les États-Unis de Trump en 100 questions, et vous avez aussi signé un papier précisément sur la refondation éventuelle du Parti démocrate américain dans le numéro d'octobre de la revue Études. Laurie Kenton, vous avez publié un atlas historique des États-Unis aux éditions Autrement cette année. Merci aussi à Benjamin Haddad de l'Atlantic Council à Washington qui a écrit et publié chez Grasset « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes ». Merci bien sûr à Hamda Mostafavi de Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Adèle Caglar. C'est Hugo Boursier qui m'a aidé à préparer cette émission et qui va mettre, comme d'habitude, sur notre site de franceculture.fr toute la bibliographie nécessaire pour assouvir vos curiosités américaines. Voilà, comme chaque samedi, vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.